Les invités de la rédaction aujourd'hui sont Tal Brutmann, historien et spécialiste de la Shoah, venu parler aux élèves en bac pro vente du lycée Oberlin de la spoliation des commerces du centre-ville en lien avec un projet mené avec leur professeur de lettres et d'histoire, Madame Dergam, que nous entendrons en deuxième partie d'interview. Tal Brutmann nous parle de l'importance de la transmission de l'histoire aux plus jeunes et du rôle clé des enseignants.
C'est évidemment important, mais ce n'est pas tant ma mission à moi que celle des enseignants. Et en l'occurrence, il y a des enseignants strasbourgeois qui m'ont sollicité pour apporter un éclairage sur des domaines particuliers en complément du travail qu'eux réalisent. Mais ce travail, il est réalisé par tous les enseignants de France.
Et justement, à ce niveau-là, on parle de la formation des enseignants. Selon vous, elle est adaptée ?
Elle est de mieux en mieux adaptée. Vous pouvez comparer entre ce qui se faisait il y a 20 ou 30 ans et ce que les enseignants font aujourd'hui. On a des années-lumière en termes de connaissances, de compréhension et même de mise en adéquation entre les programmes qui sont un peu mieux, on va dire, profilés autour du sujet et ce que les enseignants maîtrisent, ce qui était loin d'être le cas il y a encore 25 ans.
Les biens en général, ça a été un long combat, ça a été un gros dossier. Aujourd'hui, on en est où ?
Alors, ça a été une très longue histoire qui a commencé dès la Libération et qui a été jusqu'au début des années 50, à peu près, tout est dans l'à peu près réglé par la 4ème République avec un angle mort qui a été que 5% des biens n'avaient pas été restitués pour une raison très simple, les familles avaient disparu. Et à la fin des années 90, les travaux menés par la mission Matteoli, qui avait été instaurée par le gouvernement Juppé, puis ensuite qui a été prolongée par Jospin, a mis au jour tous les problèmes qui restaient. Et donc, depuis le début des années 2000, la question est très largement réglée d'un point de vue légal et d'un point de vue moral.
Les démarches qui ont été faites, ce sont les familles qui réclament leur dû et les biens qui leur ont été spoliés, ou c'est l'État qui fait réellement un travail et encore aujourd'hui ?
Alors c'est les deux, c'est les familles éventuellement qui n'ont pas eu droit à une restitution et qui en l'occurrence 60 ans après ont droit à une indemnisation puisque dans l'immense majorité des cas il n'y a rien à restituer pour des raisons juridiques et puis pour des raisons matérielles, hormis des cas très très particuliers qui ont tendance à focaliser l'attention, c'est-à-dire les œuvres d'art mais qui ne sont absolument pas représentatives de l'immense majorité des biens qui ont été spoliés pendant la guerre ou pillés par les Allemands ou par les Français.
Là, on va de même pour les biens immobiliers ?
Alors, ça concerne tout un registre de biens qui va de l'immobilier en passant par les biens meubles, les comptes bancaires, les actions, etc. etc. Et il y a autant de cas de figure que de types de biens qui ont été touchés.
Il y a un budget pour ça, pour indemniser les victimes et les nouveaux propriétaires qui aussi ont peut-être acheté en bonne foi, je ne sais pas.
Alors, tout dépend du cas de figure que vous évoquez et de quel type de bien vous parlez. L'immense majorité des biens immobiliers a été restitués au sortir de la guerre. Et voilà, les biens meubles relèvent d'une autre logique. Et au début des années 2000, l'État crée la commission d'indemnisation des victimes de spoliation qui instruit des milliers de demandes depuis 20 ans et qui a très largement indemnisé les personnes qui ont pu faire valoir les dommages qu'elles ont subis.
Vous parliez des archives, justement, c'est là où vous procurez vos documents, vous retrouvez des traces de spoliation éventuelle.
Oui, mais tout a été très largement documenté par ceux qui ont spolié. Donc les archives existent, elles sont déposées aux archives nationales, dans les archives départementales, dans les municipales, et donc il suffit de chercher pour trouver.
Là, vous venez faire une conférence avec des lycéens, vous allez leur présenter votre travail, sur quoi vous allez insister ?
Je ne vais pas insister sur quelque chose de particulier parce que je vais exposer des faits et expliquer une mécanique et comment ou plutôt des politiques d'État, parce que je ne vais pas parler que des spoliations mais aussi de la Shoah, comment ça a été mis en œuvre et pourquoi ça a été mis en œuvre et dans quel cadre. Donc ce n'est pas tant insister sur quelque chose, c'est de montrer les choses et d'essayer de faire comprendre les événements, comment ils se sont mis en place.
Vous dites essayer de faire comprendre, il y a des mots choisis pour parler de la Shoah ?
Non, il n'y a pas de différence entre des adolescents et un public qui serait plus adulte. C'est juste faire comprendre, ça vaut pour l'ensemble de la population. La Shoah est omniprésente pour tout un ensemble de raisons dans notre société, pas que dans notre société, dans tout un ensemble de sociétés européenne ou extra-européenne. Et si on prend la France ou en l'occurrence Strasbourg, l'Europe s'est construite en réaction à la Shoah, mais en même temps, c'est pas parce que le sujet est omniprésent qu'il est compris au sens propre du terme. Et donc le boulot de l'historien, mais comme des enseignants, c'est de faire comprendre un certain nombre de choses, au-delà des représentations.
Vous avez ce sentiment qu'il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup de méconnaissances dans ce sujet ?
Oui, mais c'est pas particulier au sujet. L'histoire de Rome, elle est toujours enseignée, alors que Rome a disparu il y a 2000 ans, et Rome est toujours étudiée, on continue à enseigner Rome. Donc c'est pas propre au sujet, mais en l'occurrence, on a un sujet qui est très largement investi par le politique, le sociétal, et donc qui appelle aussi un certain nombre d'enjeux qui sont autres. Mais en l'occurrence, en histoire, quelle que soit la période, il y a toujours une nécessité de mettre à plat les représentations qu'ont les gens au-delà de ce qu'ils peuvent croire ou penser ou de la manière dont ça a pu être compris ou véhiculé.
Le ministère de l'Éducation a mis en place une semaine d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Pour vous, ça a du sens aujourd'hui ?
Non, mais c'est bien que ça soit fait. Quelle est la finalité de cela ? Enfin, que le ministère l'ait mise en place, c'est très bien. Il y a toujours des journées d'action. Quel est concrètement le résultat ? Qu'est-ce qui est fait ? Qu'est-ce qui est concrètement obtenu ? C'est une autre question. Enfin, c'est fait, donc tant mieux que ça soit fait.
En fait, à partir de 1941, tous les biens qui tombent sous le coup de la loi de spoliation mise en place par Vichy vont être confiés à des gestionnaires externes, c'est-à-dire que le propriétaire légitime n'a aucun droit sur son bien. On envoie quelqu'un qui va assurer la gestion jusqu'à la vente du bien.
Madame Dergam, professeure d'histoire et de lettres au lycée Oberlin, à l'initiative du projet de recherche des commerces spoliés de Strasbourg. Elle nous parle de ce travail et de sa motivation.
Alors tout d'abord, cette idée, je l'avais déjà en tête depuis longtemps, depuis un moment déjà. Et puisque nous sommes dans un lycée qui forme nos élèves au métier du commerce et de la vente. Et puis je m'étais dit que c'était une bonne idée de faire le lien et puis de travailler sur cette thématique, puisque nos élèves effectuent pour la plupart d'entre eux des stages dans les commerces du centre-ville de Strasbourg. Et il me semblait aussi intéressant d'une part d'apprendre à connaître l'histoire de leur ville, hein, qu'ils ne connaissent pas forcément bien, et puis d'autre part de lire la ville autrement, de voir la ville d'une autre manière, et puis de comprendre aussi, lorsqu'ils iront faire leur stage dans des commerces, de se dire, tiens, ce commerce, il a une histoire avant. Il y a eu les propriétaires étaient juifs, leur magasin a été spolié. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité mener ce projet avec ma collègue. Je ne suis pas toute seule, je suis avec ma collègue, Madame Epp, et mon inspecteur, Monsieur Fugler, qui nous aide beaucoup et qui nous épaule dans toutes nos démarches.
Vous avez fait des recherches, vous avez travaillé avec les archives départementales du Bas-Rhin, c'est ça ?
Tout à fait. Alors nous avons commencé, mais nous avons été freinés dans nos recherches puisque nous avons été confinés au mois de novembre. Et puis depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, nous fonctionnons en hybride. Donc ça a été difficile de mettre en place un planning et puis de s'y tenir. Donc on va essayer là, jusqu'à la fin de l'année en tout cas, de prévoir des créneaux pour avancer dans notre travail, dans nos recherches.
Vous avez des exemples frappants de grandes anciennes strasbourgeoises qui ont été un temps spoliées ?
Alors on a trouvé des commerces, notamment rue des Grandes Arcades à Strasbourg, donc qui sont aujourd'hui occupés par des grandes enseignes et qui à l'époque abritaient des petits commerces tels que des fourreurs, de la confection hommes, dames, des magasins de chaussures. Donc voilà, ce sont quelques exemples. Après, nous venons de débuter les recherches aux archives, donc on a encore un gros travail. On en saura plus et puis on aura plus d'éléments et plus d'informations quand nous aurons terminé, achevé ce travail de recherche qui va nous prendre du temps.
Madame Dergam, on vous sent très investie. Alors évidemment, vous êtes professeur d'histoire, ça je l'entends bien. Mais je sais que déjà dans d'autres opérations, le mois de l'autre, vous étiez très investie, on va dire, pour la transmission de la mémoire. C'est ça, c'est important pour vous ?
Tout à fait, tout à fait. C'est notre rôle aussi en tant qu'enseignant. Et d'autant plus quand on enseigne l'histoire. C'est un combat, enfin, je ne sais pas si on peut parler de combat, mais en tout cas, c'est une mission qu'on doit poursuivre chaque année avec les élèves. Puis quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai que les élèves sont, avec les réseaux sociaux, se laissent influencer par toutes les théories du complot, par les théories négationnistes. Donc je pense que c'est un travail de longue haleine qu'on doit mener avec les élèves pour les aider à changer aussi leur regard sur l'autre, en particulier les juifs, hein, puisque bon, je ne vous cache rien, hein, il y a beaucoup d'idées préconçues sur les juifs qu'on peut aussi parfois entendre hein, de leur bouche. Hein, et donc c'est aussi une façon voilà, pour moi de voir l'autre, voilà, d'avoir une autre image, hein, pas forcément négative en tout cas, enfin pas négative du tout hein, d'ailleurs, du juif et à travers son histoire, à travers son parcours, de leur faire comprendre que bah, finalement bah, les juifs en Alsace et à Strasbourg comme partout ailleurs, que ce soit en France ou en Allemagne, bah, c'était des citoyens hein, comme vous et moi qui ne demandaient qu'à une chose, c'est vivre, travailler, avoir une vie sociale. Et puis voilà, on a voulu les faire disparaître du paysage, de la vie économique, tout simplement parce qu'ils étaient juifs.
Vous avez eu, vous, en début, on va dire, d'enseignement de la Shoah, quand vous parlez justement de la vie des juifs ici en France ou en Alsace, hein, vous avez eu, vous, des réflexions négatives de la part de certains de vos élèves ou des gens qui n'entendent pas les choses de la même façon et ont essayé, eux, de faire passer leur vision des choses hein.
On n'a pas senti d'hostilité ou de propos déplacés, parce que je vous le dis, c'est la deuxième fois qu'on mène un projet sur la Shoah avec nos élèves. Et je dois dire que même si au départ, ils avaient beaucoup d'a priori et sur les Juifs, ils nous ont clairement dit, ils ont reconnu hein, d'ailleurs, hein, qu'ils jugeaient mal les Juifs, qu'ils avaient beaucoup d'idées préconçues sur les Juifs et que ce projet leur a permis justement de changer leur regard. Mais en tout cas, c'est vrai que les deux projets là, que nous menons avec ma collègue ont toujours suscité l'adhésion des élèves. Et l'objectif d'ailleurs, c'est de les impliquer tous. Et vraiment, je peux vous dire qu'ils sont partie prenante dans ce projet et que... Et voilà, ils sont intéressés, ils sont motivés. Et voilà, après, je ne suis pas dans leur tête, hein, je ne peux pas savoir ce qu'ils pensent. Mais bon, en tout cas, il n'y a jamais eu d'élève hein, qui ait refusé de participer au projet. Ce qui est arrivé, je le sais, dans d'autres établissements scolaires, hein, où des élèves refusent de participer à des projets sur la Shoah. Mais en tout cas, nous, ça ne s'est jamais produit dans notre établissement.